Nous sommes le mercredi 26 avril 2023 et nous sommes à 24 heures et même moins des 63 ans du Togo indépendant. Vous vous doutez bien que ce sujet sera au menu du Club de la Presse aujourd'hui. Nous allons parcourir le programme officiel annoncé, ce qui se fait et ce que les gens continuent à attendre qu'il cela se fasse. Et comme c'est mercredi, nous allons parler également de santé, notamment la santé mentale, des maladies neurodégénératives auxquelles nous pouvons être malheureusement candidats avec l'âge. Qu'est-ce que c'est? Quelles sont les dispositions que nous pouvons prendre pour éventuellement espérer nous mettre à l'abri? Et puis, quand on pèse 120 kilos et qu'on est femme ronde, est-ce que c'est bien ou bien est-ce qu'il y a des exercices à faire pour redevenir un peu, pour perdre quelques kilos? Voilà le menu de ce Club de la Presse. Je rappelle que c'est le 26 avril 2023 et nous vous saluons, vous toutes et vous tous qui êtes à l'écoute sur tous les médias et les canaux partenaires. À la technique, c'est Victor Gwekoku, Michel Tomega et Jérôme Dakoucha. Avant la présentation des autres, disons des confrères et invités, la pensée du jour avec Eckhart Tolle qui écrit que la prise de conscience est le plus grand facteur de changement. Encore une fois, la prise de conscience est le plus grand facteur de changement. Le plateau à présent avec Fabrice Paton-Pechezi du journal Le Libéral. Bonjour.
Bonjour à toi Sas, bonjour aux confrères ici présents, bonjour à tous ceux qui nous écoutent en ce moment.
Merci. Alors, actualité Fabrice, nous savons que de temps en temps, ceux sur qui nous écrivons peuvent avoir des raisons de porter plainte contre nous les journalistes. C'est le cas par exemple de la société Togo Terminal et son directeur qui ont intenté un procès aux confrères Tampa Express. L'affaire est inscrite aujourd'hui et nous apprenons que la séance a été bien rapide et le dossier Tampa Express Terminal Togo Terminal est renvoyé au 14 juin 2023. Voilà la dernière actualité, Patom.
Oui, c'est un peu dommage qu'on se retrouve devant les tribunaux avec des journaux, surtout que une première sanction, je crois, a déjà été prise par la HAC. Trois mois de suspension, je crois que c'est la plus lourde des sanctions, puisque pendant 3 mois, vous ne travaillez pas. Le personnel est en congé, pas technique, mais je sais comment le qualifier. Bon, au-delà de ça, je crois qu'on aurait pu peut-être s'arrêter là et se contenter de la décision de la HAC qui est également lourde. Mais bon, aller devant le tribunal pour un journal, bon, nous ne pouvons qu'exprimer nos regrets. Mais tout citoyen est libre d'ester en justice, mais nous aurons souhaité quand même qu'au nom d'une certaine d'un certain humanisme, on puisse quand même s'arrêter à la décision qu'a prise la HAC, notamment sanctionnant le journal pour 3 mois de suspension. Bon, j'espère que ça ne sera pas encore, l'addition ne sera pas corsée le jour où le procès aura lieu. Tous nos soutiens à nos confrères qui ont des difficultés avec
Merci.
La loi.
Merci. Donc, rendez-vous le 14 janvier 2023 et c'est là que on pourrait éventuellement requalifier la plainte du sieur Gaffin contre Tampa Express. Quand nous en saurons davantage, nous vous en parlerons. Sylvestre Kokoubeni de La Manchette, bonjour.
Oui, bonjour ça, c'est bonjour à tous les fidèles branchés.
Et Abbas Issaka de Le Magnan Libéré, bonjour.
Bonjour Jalou, bonjour à tous ceux-là et celles qui nous écoutent en ce moment.
et Gadiel Tchonyadi de Santé Éducation qui vient à l'instant même de nous rejoindre. Bonjour.
Sasse, bonjour. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent ce matin.
Merci. La personne ressource à nos côtés, Madame Merci Chaoula. Bonjour.
Bonjour, Monsieur Sasse.
Eh bien, vous êtes directrice de la structure Jadis Fitness Studio. Vous êtes également coach en fitness et nutrition. En français facile, qu'est-ce que vous faites, madame?
En français facile, j'assiste à toute personne qui a envie de retrouver une bonne santé par le sport et la nutrition.
Notamment ceux qui sont un peu trop gros?
Non, pas du tout. Toute personne. Oui.
Ok, là c'est votre job au quotidien.
Oui, c'est ça.
Donc vous avez, je crois, c'est une danse la Zumba, c'est ça?
Non, c'est un peu de tout.
Un peu de tout.
Oui,
donc vous rappelez votre job au quotidien, c'est?
Oui, je suis coach en fitness et en nutrition.
Oui.
Donc j'assiste toute personne qui a envie de faire du sport et de revoir son alimentation.
C'est vrai que vous-même, vous êtes une sportive, hein, quand on vous voit. Alors, vous êtes également la promotrice du projet Fit Diva Afrique, n'est-ce pas?
Oui.
Et là, qu'est-ce que c'est?
Là, c'est un projet qu'on a mis au point pour aider les femmes souffrant de l'obésité et aussi de l'obésité morbide sur notre territoire togolais.
Les femmes souffrant d'obésité et surtout d'obésité morbide, c'est-à-dire l'obésité qui peut... que peut s'accompagner de maladies?
Disons, l'obésité à un niveau où ça a vraiment dégénéré. La personne n'a plus du tout le contrôle, ni de son corps, ni de sa santé.
Oui, voilà, et là, vous les accompagnez?
Oui, on les accompagne, on les ramène à leur poids normal. Et on les aide aussi à rééquilibrer leur alimentation et aussi à garder surtout les yeux sur leur poids.
C'est important. Je me rappelle, il y a quelques années, nous avons déjà reçu dans ce studio et vous nous parlez donc de ces soirées au cours desquelles vous récompensez les femmes rondes que vous avez aidées à retrouver leur forme et vous couronnez celles qui ont réussi à votre formation et vous recrutez d'autres, de nouvelles femmes.
Bien sûr.
Il semble que la prochaine séance a lieu dans quelques jours.
Oui, disons qu'on a fini la sélection déjà, puisqu'on avait déjà lancé l'appel sur les réseaux sociaux et tout. Donc, les femmes viennent s'inscrire et parmi ces femmes-là, on voit celles qui ont vraiment besoin d'assistantes en urgence. Donc, ces femmes-là, on les sélectionne. Et on les présente au public de voir dans 8 mois comment ces femmes-là seront transformées par le sport et la nutrition. Donc chaque année, c'est notre 3e édition. On est à notre 3e édition, donc chaque année, on présente ces femmes-là que la population a déjà vues avant et après pour voir comment le choix ou bien le style de vie que ces femmes-là ont choisi ont transformé leur vie.
Donc, en 8 mois, vous transformez les femmes obèses. Vous les aidez à retrouver une forme beaucoup plus...
normale à leur taille, surtout. Oui, puisque ce sont des femmes qui pèsent jusqu'à 160 kilos.
Et jusqu'à 100?
160.
Et c'est la dernière vague qui vient de faire terminer sa promotion, sa formation que vous présentez le 5 mai prochain.
Voilà, on présente... celles qui ont terminé leurs 8 mois cette année, on va les présenter et au même moment, on va intégrer la nouvelle vague qui est arrivée au public. Donc, voilà, on peut dire que l'ancienne vague serait couronnée et on va faire un welcome à la nouvelle vague.
Pour les nouvelles. Donc, le 5 mai 2023 à 19h à l'Agora Senghor.
À l'Agora Senghor.
Et vous souhaitez que beaucoup de personnes viennent regarder le fruit de vos efforts et surtout des candidates qui se sont pliées à cet exercice-là.
Oui, en fait, c'est notre manière surtout d'informer, d'éduquer aussi la population sur les dangers de l'obésité et de prouver à la population que l'obésité... c'est une maladie, bien sûr, mais quand on se lève très tôt, on peut toutefois guérir de cette maladie. Donc, c'est notre manière de communiquer à la population, puisque ces dames-là, elles auront à partager l'histoire ce qu'elles ont vécu, comment l'obésité est rentrée dans leur vie et après qu'elles ont choisi de changer leur style de vie, elles ont pris la décision de venir vers nous et comment ce projet a impacté leur vie, leur santé et surtout ce qu'elles ont comme projet d'avenir après avoir retrouvé leur santé. Donc, elles auront à partager ce moment fort-là avec le public.
Donc, le 5 mai, on va regarder, on va admirer celles qui viennent de faire les 8 mois de formation, comment elles ont perdu le surplus de 2 kilos. Mais on va également regarder les nouvelles.
Bien sûr,
Avant qu'elles entrent dans le cycle de 8 mois de formation.
Justement.
Alors, est-ce que la liste est déjà close pour la nouvelle vague de...
Oui, déjà, c'est déjà close. Elles ont commencé leur première phase. Mm-hmm. Leur première phase, on leur fait des tests pour voir si elles seront capables de tenir. Donc, chaque jour, on leur fait soumettre dans des exercices de cardio, puisque c'est la base. Il faut avoir du souffle pour pouvoir tenir des activités sportives. Donc, on les fait chaque jour passer par ces exercices-là pour les préparer. Donc, elles sont déjà dans la ligne vers les 8 mois.
Merci. Voilà. Donc, merci. Le 5 mai à 19h
à Agora Senghor. Oui, et cette année, on a eu la chance d'être accompagné par le ministère du Sport et des Loisirs, qui ont apprécié l'effort de notre projet. Et je crois que avec ça, ça peut aussi donner la confiance à la population qu'on fait quelque chose de bien, on apporte quelque chose à notre pays et on sauve des vies.
Et vous m'avez confié que la formation durant les 8 mois est totalement gratuite.
Oui, puisque c'est un projet qui vient en aide aux femmes qui souffrent de l'obésité. Puisque, Monsieur Sade, vous savez, ces femmes-là perdent la grande partie de leur vie en essayant de lutter toute seule contre l'obésité. Or que l'obésité, c'est une maladie d'où on a besoin d'assistance dans tout, mental, émotionnellement et aussi physiquement. Donc, on essaie d'apporter tout ça là à ces femmes.
C'est bien, sauf qu'il n'y a pas que les femmes qui souffrent d'obésité. Il y a également des hommes qui souffrent d'obésité morbide. Oui. Or, votre projet ne prend en compte que les femmes pour le moment.
Pour le moment, oui, puisque moi-même, j'en étais une victime il y a de cela 13 ans.
Oui, je suis d'accord. Mais il y a aussi des hommes qui souffrent de cette obésité.
Oui, disons que pour les hommes et autres personnes, la structure là est là pour les aider.
Merci donc à toi. Merci, Shaoula. Merci. Et tu restes à nos côtés pendant que nous embrayons sans tarder sur Santé Éducation. Gadiel, rebonjour.
Oui, ça c'est bonjour.
Alors, c'est un numéro spécial santé mentale que Santé Éducation nous produit aujourd'hui. Commençons par l'article à la page 3. Santé de la mémoire, les aliments et les recettes que vous nous recommandez, parce que l'article dit qu'il faut s'assurer un cerveau performant et redoutable à tout moment, et pour cela, certaines habitudes alimentaires permettent de prévenir le déclin cognitif, mais aussi la maladie d'Alzheimer et la maladie de Parkinson, entre autres.
Oui, ça, vous savez, les problèmes de santé mentale se posent avec acuité de nos jours et le côté information et éducation manque. Donc, nous, cette année, on a décidé de revenir très souvent sur ces maladies neurodégénératives qui, aujourd'hui, prennent du pas et qui traversent tous les âges, ce qui est remarquable. Alors, c'est très important d'abord de prendre en compte notre cerveau, notre mémoire, parce que c'est la tour de contrôle et d'après plusieurs études, on peut totalement détruire notre mémoire en ayant une mauvaise hygiène de vie, en ayant une mauvaise alimentation. Donc, on sait aujourd'hui que la bonne alimentation est le premier produit de la mémoire. Et il y a des aliments qui ont plus de ses propriétés nutritives, de ses nutriments pour entretenir notre mémoire. Et donc, on en a mis certains aliments là-bas. Et puis, il y a des recettes, vous savez, pour des professionnels, ceux qui ont un métier très intellectuel. C'est bien d'avoir des recettes pour réchauffer la mémoire. Quand on perd la mémoire, ça devient compliqué de vivre soi-même et de vivre avec son entourage. C'est absolument important cet article pour nous tous.
Donc, information très importante. Si nous voulons assurer une bonne santé de notre cerveau, il y a des aliments qui nous sont recommandés. Il y a aussi surtout une bonne hygiène de vie.
Absolument. Vous savez, je vais donner juste un exemple. Si quelqu'un prend de l'alcool pour son breuvage préférentiel, il fait du tort à sa mémoire, il fait du tort à son cerveau. Donc, l'alcool, par exemple, est détecté comme une boisson nuisible à la mémoire, une boisson nuisible au cerveau.
Entre voilà. autres. De entre temps autres, plus qu'il voilà. Y a de ces maladies neurodégénératives qui nous guettent tous autant que nous sommes. Parce que l'article rappelle que les cellules du système nerveux ne se reproduisent pas.
Voilà.
Et si elles meurent, c'est que c'est fini.
Tout à fait. Donc les neurones et les cellules du système nerveux, quand elles sont atteintes, c'est un dommage. Et là, on parle de maladies neurodégénératives. Et aujourd'hui, c'est le moment d'en parler, surtout dans nos communautés africaines, parce que la plupart des personnes qui ont ce genre de maladies, on les traite de personnes possédées. Mm-hmm. Or, ce n'est pas toujours le cas. On sait qu'il y a des cas de possession. Ce n'est pas toujours le cas. Donc, là, les maladies dégénératives, on cite l'Alzheimer, le Parkinson, les troubles bipolaires, la dépression, hein, voilà, ces genres de maladies que nous avons chez nous, il y a de plus en plus de patients de ces maladies, la schizophrénie par exemple. Donc, ce sont des maladies que nous ignorons dans nos communautés, mais qui font vraiment du mal, qui pénètrent beaucoup la communauté. Et dans cet article, nous donnons un peu un cliché sur ces maladies. Quelles sont les causes? Comment faire la prévention pour ne pas arriver à des cas de complications? Aujourd'hui, il y a des centres spécialisés pour la prise en charge de ce genre de personnes. Mais ce qui est important, c'est les signes. Vous savez, quand quelqu'un commence par perdre beaucoup sa mémoire, ça, il oublie beaucoup. Et puis, il commence par avoir des comportements bizarres. Il exprime plus de peur. Il s'isole. Ce genre de comportement doit nous alerter et aller au diagnostic d'abord. Et puis, s'il le faut, faire une prise en charge précoce pour éviter des complications.
Eh bien, ça peut faire un peu froid dans le dos, mais restons zen. Les neurones, qui sont les éléments constitutifs du système nerveux, notamment la moelle épinière et le cerveau, ne peuvent pas se multiplier. De sorte que s'il arrive que l'une de ces cellules mourait, on ne peut plus la remplacer. La conséquence, c'est que on peut avoir des dysfonctionnements dans l'équilibre, les mouvements, la parole, la respiration, les maladies comme la maladie de Parkinson, la maladie d'Alzheimer, la démence, les troubles bipolaires, le trouble du spectre de l'autisme, la dépression, la schizophrénie, les addictions, le déficit intellectuel, l'épilepsie. Vraiment terrible. Alors, comme prévention, vous nous recommandez d'avoir un régime alimentaire sain, consommer des fruits et des légumes au quotidien, éviter la surconsommation d'aliments riches en graisses saturées, observer un poids santé, adopter un programme d'exercice physique et raisonnable, le maintien d'un sommeil sain réparateur.
Absolument. Voilà.
Encore une fois, Je crois que la solution se trouve seulement dans la prévention.
Oui.
Parce que quand ça vient, même s'il y a prise en charge, quand on voit le coût, quand on voit la technicité, les spécialistes qui ne courent pas nos rues, l'homme prudent, c'est plutôt se mettre à l'abri. N'attend pas toujours qu'il pleuve, n'est-ce pas?
Voilà, c'est ça.
Eh bien, Gadiel, nous allons terminer avec cet autre article qui porte sur les femmes folles, les femmes souffrant de démence, mais que nous rencontrons un peu partout autour de nous, enceintes. Alors, Gadiel, dis-nous, comment est-ce qu'une femme, une femme folle peut se retrouver enceinte?
Ok, les femmes qui ont perdu leur raison, qui sont qualifiées de folles, on trouve certaines qui tombent enceintes, et la plupart des études prouvent que c'est des femmes qui sont abusées, violées, par des hommes normaux. Et voilà, elle se retrouve avec une grossesse. On sait que ce genre de personne ne peut pas faire un certain nombre de choses, ne peut pas poser un certain nombre d'actes. Donc, assez complexe de gérer cette situation. La femme victime de démence qui est enceinte ne peut pas se rendre elle-même à l'hôpital pour suivre la CPN, d'autant plus qu'elle erre dans la rue. La consultation prénatale. Donc,
qui est gratuite selon le programme réseau du gouvernement.
Tout à fait. Et c'est un passage obligatoire pour toute femme enceinte. Donc, cette femme ne peut pas aller dans ce genre de centre pour sa consultation. Et très souvent, d'après des études, elles vont au suicide parce que la grossesse impose un certain nombre de rigueurs, un certain nombre de suivis qu'elle ne peut pas se donner. Et ce qui fait que des fois, on retrouve ce genre de femme qui décède avec l'enfant qui est en elle. Donc, au mieux, aujourd'hui, la sensibilisation, c'est que laissons ces genre de femmes tranquilles pour ne pas leur donner une grossesse. Ah, c'est absolument important. Leur suivi est un peu complexe. Donc, ou soit elles sont dans un centre spécialisé pour un traitement, mais quand elles errent dans la rue, franchement parlant, ce n'est pas du tout bien de les violer pour qu'elles tombent enceintes.
Bien, les femmes folles hein, enceintes courent des risques élevés des suicides. Alors, chacun peut se poser la question. Un homme normal qui va abuser d'une femme souffrant de démence et qu'il abandonne. Bon, je ne réponds pas, mais je rappelle juste d'autres articles très intéressants de Santé Éducation, notamment l'autisme. Est-ce que l'autisme se guérit? Les enfants trisomiques, quels sont les problèmes dans les familles et la communauté? Ou encore, quand devient-on addict à un comportement ou à une substance? Ou encore, la schizophrénie? Les signes d'alerte et les complications, la maladie de Parkinson, attention à la destruction des neurones, ces deux petits articles bien écrits, et je n'oublie pas l'Alzheimer, attention à ses habitudes quotidiennes, tout est dans les articles, on va acheter le journal au prix de 1000 francs.
Ils font le journal papier, le journal numérique à 500 francs.
Et puis on découvre tous ces articles-là avec les recettes qui accompagnent. Merci à toi, Gadiel, mais tu restes à nos côtés comme la dame. Merci. Quand nous allons ouvrir les antennes à partir de 12h, si une question devrait porter sur l'un d'entre vous, que vous serez là vous-même pour répondre. Maintenant, l'actualité sociopolitique avec Fabrice Sylvestre Abbas, mais vous aussi, Gadiel et Shaoula, si l'envie vous en prend. Mais commençons par ce qui figure dans le programme officiel de la commémoration du 27 avril, communiqué signé par le ministre d'État Payadoua Boukessi et qui est amplement diffusé depuis dimanche dernier. On note que ce matin du 26 avril à 8h30, le chef de l'État devrait se présenter devant l'Assemblée nationale pour dresser l'état de la nation. Et on découvre, on peut dire aujourd'hui, en faisant un jeu de mots, que pour cette activité, le président de la République vient de faire un goéta à la nation. Parce que dans sa parution de ce matin encore, Togo Matin écrit « État de la nation », ce discours très attendu de Faure Gnassingbé, mais toute enquête faite, tout recoupement fait, l'Assemblée n'a pas été convoquée ce matin. Il n'y a pas eu de conférence du président. La présidente de l'Assemblée nationale n'a pas invité ses collègues députés. Le chef de l'État ne s'est pas déplacé à l'Assemblée pour son discours. Mais tout ce beau monde se retrouve plutôt à un autre lieu que nous allons aborder prochainement. Voilà, Sylvestre Béni. Donc, et le chef de l'État fit un goéta à la nation ce matin.
Oui, il nous a posé un lapin. Il a zéwa, c'est ça, non? Non, écoutez, moi, hier, j'ai discuté avec un confrère, puisque un confrère qui anime donc un site, Donc, il a publié l'article, il le relaie sur les réseaux sociaux. Donc, je suis allé dans son boss et je lui ai demandé si l'information là, si ça tient. Il m'a dit, bon, lui aussi, il a reçu donc des voix officielles. Donc, puisque moi, déjà, hier, j'étais donc dans les confidences d'un certain nombre d'acteurs et on me disait que ce matin, ça pourrait ne pas avoir lieu. Que ce serait peut-être décalé de quelques heures. C'est ce que j'ai eu comme information, mais nous sommes déjà, il est déjà bientôt midi.
Il est 11h26.
Oui, je ne pense pas qu'on puisse. Oui, c'est encore possible, hein, c'est encore possible, peut-être jusque tard dans la soirée. Mais officiellement, ce qui a été dit, c'est à 8h. Donc, 8h30. Donc, c'est pas fait. Donc, bon, on peut convoquer peut-être l'Assemblée vers la soirée, c'est possible aussi, puisqu'on connaît aussi la République. On peut les appeler peut-être 2h ou 3h bien avant donc que le chef de l'État ne fasse le déplacement. Donc beaucoup peut être là. Puisque la majorité aussi sont presque à Lomé, nos députés aussi. Et ils sont rares ceux qui rejoignent donc leur circonscription après leur élection. Ils restent à Lomé. Et puis bon, à l'orée donc d'une nouvelle élection, ils vont faire quelques tours donc dans leur circonscription. Donc ils peuvent être appelés vers la soirée. Donc on croise encore les doigts. Pour voir si ça peut tenir. Mais c'est important, puisque c'est une disposition constitutionnelle. Hein, le chef de l'État doit le faire. Il a fait il y a 2 ans, je crois. Donc,
la dernière fois, c'était en 2019.
Ah, donc, ça fait déjà plus de 4 ans. C'est beaucoup. Or, la Constitution impose à ce que
chaque année, une fois l'an,
le chef de l'État puisse quand même aller devant la représentation nationale et parler donc de l'État de la nation. C'est vrai que nous, du côté de la presse, on attendait quand même ce discours. Comme l'a dit notre confrère, voir sur quel levier, qu'est-ce que le chef de l'État va concrètement dire, puisqu'il y a beaucoup donc de défis au sein du pays, surtout le volet sécuritaire, quelles sont les dispositions qui sont prises avec l'avancée donc de les incursions djihadistes et tout. Donc on entend le chef de l'État. Mais bon, prenons notre mal à patience, on verra jusqu'à la fin de la soirée.
On peut se demander comment le programme officiel signé par le ministre d'État, Paya de la Boukpessi, est amplement diffusé. N'ait pas pu être mise en scène à l'Assemblée nationale. Déjà hier, certains députés nous partageaient avec nous par indiscrétion qui n'avaient reçu hier aucune convocation. Après recoupement, la conférence des présidents qui regroupe le bureau, les présidents des commissions, les présidents des groupes parlementaires, le beau monde n'a pas été convoqué. Mieux, la présidente de l'Assemblée nationale n'a pas invité ses collègues à la séance de ce matin. Comment est-ce que Boukpessi fait diffuser un communiqué qui apparemment n'est pas au programme des députés?
Oui, c'est tellement que ça a été mal conçu, parce que depuis dimanche que le programme a été annoncé, s'il s'avérait que le chef de l'État devait se présenter devant l'Assemblée nationale pour le discours bilan, les députés allaient être saisis depuis. Puisque vous n'êtes pas sans savoir que depuis là, nous n'avons eu aucune invitation qui signalait que les députés sont convoqués à l'Assemblée nationale pour 1-26. Mm-hmm. Ça n'a pas été fait. Et vous le savez, depuis, il y a la présence de le service de communication de la présidence qui communique beaucoup. Si c'était le cas, on aurait déjà eu même des choses, des informations au niveau du service de la communication que le chef de l'État sera présent à l'Assemblée nationale pour un bilan. Ça n'a pas été le cas. C'est plutôt à partir de ce communiqué du ministre de l'administration territoriale que la presse en est saisie. Il y a certains même qui sont allés jusqu'à dire, donner au moins la quintessence de ce que le chef de l'État allait dire devant l'Assemblée nationale. Ils l'ont dit. Donc, c'est par rapport à cela que moi j'ai dit, vous savez qu'il y a certains organes de presse qui n'ont même pas pris soin même d'en parler, parce que ils ne sont pas précis sur la date ou la présence du chef de l'État à l'Assemblée nationale devant la députée.
Mais donc, un communiqué quand même émanant du ministre de l'administration territoriale,
un ministre d'État,
doit avoir foi à base.
Oui, ça doit avoir foi, mais ça dépend. Est-ce que on a contacté pour le voir député, si le chef de l'État est disponible en ce moment à 8h pour aller se présenter à l'Assemblée nationale? Est-ce que ça a été vraiment étudié? Parce que le chef de l'État, par rapport à son timing, je peux dire que bon, je ne peux pas être dispo. Normalement, le ministre devait même revenir dire que on va décaler le discours à telle période. Ce qui est sûr, c'est que le discours, puisque le chef de l'État a l'habitude de le faire à la veille de chaque fête de l'indépendance,
c'est tellement toujours, Abbas.
Non, pas toujours.
L'adresse
à la nation.
Oui.
L'adresse, il le fait toujours.
Oui.
Ce qui est sûr, même s'il ne le fait pas devant les députés, puisque c'était un discours qui allait se présenter là, ce n'est pas un débat qui allait s'ouvrir. Il pouvait le faire, il pourra le faire dans la soirée, comme d'habitude, puisque depuis que le chef de l'État fait un discours, on ne nous signale pas que c'est à telle heure que le chef de l'État va présenter son discours. C'est par après que les gens découvrent que le chef de l'État est en train de faire un discours, parce que ce n'est pas annoncé d'habitude. Ça ne s'annonce pas d'habitude. Et cette fois-ci, on annonce, ce qui veut dire que le chef de l'État ne peut pas, n'est pas obligé de suivre ce que le ministre de l'Administration territoriale dit.
Merci, Patom. Le chef de l'État, il peut s'adresser à la nation à chaque fois qu'il le veut, qu'il le peut. Sauf que dans le cas d'espèce, c'est la Constitution qui lui fait obligation de dresser une fois l'an l'état de la nation devant l'Assemblée nationale. La dernière fois que Florence Nyasimbe l'a fait, c'était en 2019. Et puis 2020, 2021, 2022, non. Cette année, le communiqué du gouvernement l'annonce. Et puis ce matin, nous nous retrouvons un peu comme une gueule de bois sans nous être saoulés.
Bon, l'année n'est pas terminée. Puisque la Constitution n'a pas dit que l'état de la nation, c'est le 26 avril. Donc, je suppose que l'année n'est pas terminée. Maintenant, quand tu parles de Goethe, en réalité, il n'y a pas eu Goethe. Il y aurait eu Goethe si on avait mis les députés, invité les députés à l'Assemblée nationale et qu'ils attendaient le chef de l'État qui, finalement, n'est pas arrivé. C'est là où on parle de Goethe.
Mais non, on peut parler de Zewa.
Non, peut-être celui qui a fait, il revient maintenant à celui qui a dressé le programme, de nous expliquer par quelle alchimie il a mentionné quelque part que le chef de l'État devrait aller à l'Assemblée nationale pour l'état de la nation. Je crois que c'est à ce niveau-là que se pose problème. Sinon, pour qu'un chef d'État aille à l'Assemblée nationale, il y a des prémices. On peut pas se lever et écrire qu'il y a des prémices. Même le voisinage sait qu'il y a quelque chose qui peut se passer, même si la présidence n'est pas très loin de l'Assemblée nationale. Et il n'y a rien eu. On n'a pas invité les députés, on n'a invité personne. Bon, c'est le programme qui l'indiquait. C'est vrai que la seule fois qu'il l'a fait, c'était à cette occasion. Mais, comme on le dit, passer devant les députés, c'est une exigence constitutionnelle. Maintenant, les discours de fin d'année et autres, ça, c'est quand il le veut. Et ça ne remplace pas à ce passage-là devant l'Assemblée nationale. Bon, espérons que peut-être, nous ne sommes qu'en avril, il y aura une autre occasion où il passera devant l'Assemblée nationale. Mais peut-être c'est là où il faut faire attention. Je crois que beaucoup doivent être habitués par le programme du chef de l'État. Ça n'a jamais été un acquis, même jusqu'à à la dernière minute. Même pour des voyages officiels, à tout moment, vous savez que ça peut ne plus tenir et tout cela. C'est là où il faut être prudent avec le calendrier du chef de l'État quand on veut s'aventurer dans ce type d'annonce.
Merci. C'est vrai que nous sommes que le 26 avril. L'année n'est pas encore finie. Et des informations nous laissent entendre qu'il se pourrait que les députés soient convoqués précipitamment quelques heures du passage. Eh bien, il est seulement 11h34. Nous attendons tout le courant de la journée tout le courant de l'année.
Mais il y a un élément important, c'est-à-dire le fait que ce soit le ministre d'État qui l'annonce au niveau donc des chancelleries ou de la diplomatie. Certaines peuvent prendre déjà des dispositions, puisqu'ils ont le calendrier officiel venant du gouvernement. Donc à leur niveau, ils peuvent également prendre un certain nombre de dispositions pour s'y rendre et tout et voir ou suivre ce que le chef de l'État va dire et faire également le rapport à leur État. Voyez-vous donc, il faudrait que d'aventure qu'on soit bien regardant sur ce programme-là, parce que un ministre d'État ne peut pas annoncer quelque chose et après, et le ministre d'État et celui qu'on a annoncé, eux tous deviennent introuvables. Ouais.
Merci. Fort Nyasimbe ne s'est pas présenté à l'Assemblée ce matin, mais tout laisse croire qu'il doit procéder actuellement à l'inauguration du fameux hôpital Docteur Lafayette. En tout cas, c'est vos journaux qui l'écrivent. Le Libéral, Fabrice, ton journal titre aujourd'hui Docteur Lafayette, enfin. Et c'est un soupir Est-ce que c'est de soulagement ou bien comment?
Oh, pas un soulagement, mais en fait, il faut dire que ça a été plusieurs fois annoncé. Il y a eu une polémique monstre autour d'une sortie d'un des ministres du gouvernement qui garantissait. Même en écrivant, enfin, il aurait fallu que je sois sûr que ce soit inauguré avant que je ne m'exclame. Mais bon, comme on le dit, c'est dans le programme.
Non seulement dans le programme, mais il y a quand même des
mais là, signes. Mais là, la Caisse nationale de sécurité sociale a confectionné des badges aux journalistes et mon journal a reçu un badge pour couvrir l'événement, donc je pouvais me permettre jusqu'à ce que d'annoncer que enfin. Docteur Lafière. Maintenant, qui va l'inaugurer? Bon, il faut être sur le terrain
pour savoir. Effectivement, ouais. La personne qui viendrait inaugurer. Ok, donc Docteur Lafière s'exclame le libéral pendant que le messager écrit inauguration de l'hôpital Docteur Lafière aujourd'hui. Et la lanterne se demande si l'hôpital Docteur Lafière serait également accessible aux pauvres. Mais Sylvestre Béni, il faut faire un peu une brève historique de cet hôpital. Oui. Nous nous rappelons que les travaux ont été lancés par Fonia Singbe. C'était en février 2019.
Oui.
On nous avait dit que les travaux devaient durer 18 mois.
18 mois.
Donc, de février 2019 plus 18 mois. Ceux qui ont fait les mathématiques ou les calendriers, vous pouvez savoir sur quel jour on devrait tomber. Donc, l'hôpital doit être bâti sur une superficie de 6 hectares. Il a été présenté comme un hôpital de référence. Le coût initial annoncé, c'était 25 milliards de francs CFA, financé à l'origine intégralement par la Caisse nationale de sécurité sociale. Et puis, nous arrivons en juin 2022, où on annonce un changement de nom. Ce qui était l'hôpital Saint-Pérégrin a été présenté maintenant comme l'hôpital Docteur Lafière, combinaison des langues Moba et Naouda, à l'occasion que la CNSS procédait au lancement des souscriptions dans le cadre de l'ouverture et de l'augmentation du capital de sa société de gestion hospitalière. Donc, depuis là d'où on est parti, Saint-Pérégrin, financé par la Caisse nationale de sécurité sociale. Entre-temps, on a ouvert le capital, on l'a augmenté, le capital, et on a créé une société de gestion de l'hôpital. D'où les questions que les gens se posent. Est-ce que l'hôpital qui va être inauguré aujourd'hui, est-ce que c'est un hôpital public ou privé? Et si l'hôpital a pu être accessible à tout le monde, non, dont nous ici au studio. Sylvestre Béni.
Oui, je crois que vous avez bien fait l'historique. Et même un ministre du gouvernement avait annoncé sur une chaîne panafricaine que ce devait être inauguré, je crois, en juin 2020. C'est ce que disait à l'époque le ministre Dr. Christian Elinam Trimois. Et ben, nous avons passé le cap et après le Saint-Pélegrin devenu Docteur Lafière. Ben, depuis là aussi, pas de communication, pas de communiqué qui puisse nous donner plus donc d'ouverture ou plus donc d'informations sur pourquoi est-ce qu'on est passé donc de Saint-Pélegrin à Docteur Lafière. Personne ne nous dit mot. Maintenant, l'essentiel c'est que on annonce donc l'inauguration de l'hôpital. C'est aussi un point important. Maintenant, est-ce que ce sera pour tout le monde? Ça aussi, c'est une question, puisque à poser, maintenant, un hôpital, c'est toujours pour tout le monde. Maintenant, ça dépend donc de la bourse hein, de chacun. Moi, je peux pas me hasarder à aller passer ne serait-ce que 24 heures à Docteur Lafière. Écoutez, vous savez, il y a des cliniques où vous passez peut-être 24 heures là et on vous sort la facture, vous déménagez en même temps pour aller à Tocoin. Voyez-vous, donc quand on voit le stand-in...
La santé n'a pas de prix.
Oui, quand on le voit, justement, la santé n'a pas de prix, donc il faut avoir le prix pour avoir quand même cette bonne santé. Donc quand on parle, on voit déjà le stand-in, quand on nous dit on peut héliporter les gens et tout, mais c'est pas vous et moi ça. Donc Prions quand même, vu aussi, j'ai vu quand même quelques l'intérieur quand le la star togolaise Emmanuel Adebayo a fait le déplacement, on a montré au moins quelques aspects donc de l'intérieur tout. J'ai vu quand même qu'il y a c'est quand même du bon boulot, il y a quand même de matériel de haut de gamme. Maintenant, il y a aussi la gestion, on verra si c'est privé, si sera public, mais tout cela donc peut-être après l'ouverture on nous renseignera davantage. Mais sauf que la manière dont les choses se sont passées, honnêtement, c'est pas bien, c'est pas digne donc d'une république. Il faut toujours communiquer sur toutes les situations pour qu'on puisse qu'on sache que qui fait quoi et qui. Voyez-vous, entre-temps, c'est annoncé, c'est la Caisse nationale de sécurité sociale. Ça, c'est pour le Togo. Si c'est la Caisse qui finance ça, on présume que c'est public. Maintenant qu'on a ouvert le capital et que d'autres sont rentrés, on a changé de nom, est-ce à dire qu'il y a un national majoritaire? Ça devient peut-être privé, il y a un national majoritaire qui a décidé donc de changer le nom. Il y a également cet élément-là. Vous voyez donc il y a quand même c'est de l'embrouille à mini finalement. On comprend rien de tout dans notre
verra. De Saint-Pérégrin à Dr Lafia. La gestation a été vraiment longue et fastidieuse, mais Dieu merci, l'accouchement est en train de se faire en direct aujourd'hui.
Oui, l'accouchement s'est fait. On a l'impression que c'est quand on a changé de nom que l'hôpital a pris de l'envol. Parce que quand c'était Pèlerin, les gens disaient pourquoi c'est un nom, il y a les Togolais, non Togolais, et puis on va emprunter un nom italien pour que ça vienne.
Est-ce que c'est même l'italien, c'est Pèlerin?
C'est Pèlerin.
C'est plus.
Bon, plutôt c'est français quand même. Bon,
c'est un nom étranger et il fallait même adapter notre hôpital. Ça a été expliqué comme ça. Hein.
Ouais.
Il fallait adapter l'hôpital. La communication est passée. C'est pour cela qu'on a choisi ce nom pour donner l'hôpital Dr Lafia. Donc ça a été bien expliqué. Maintenant, si c'est public ou privé, je pense que ça doit être un truc parapublic, c'est-à-dire privé et public, le partenariat privé-public qu'on est en train d'instaurer. C'est ça. Puisque quand vous prenez la Caisse de sécurité sociale, c'est une société para-étatique. Et c'est à partir des contributions même des fonctionnaires que la CNSC continue par mener ses activités. Donc si la CNSC a initié, la CNSS a initié la construction de cet hôpital, et on a invité le chef de l'État pour le lancement des travaux.
La pose de la première
la pierre. La pose de la première pierre.
Et aujourd'hui l'inauguration.
L'inauguration. Donc on implique le public dedans. Et ce qui fait que ce qui pose problème, c'est qu'on n'a pas donné la majorité des parts. Des parts de chacun. Si c'est la CNSA a plus de parts que les privés qu'on a invités à venir contribuer à la construction de cet hôpital. Donc, depuis que ça a changé de nom, les choses ont évolué plus vite, puisque avec Pèlerin, on nous avait donné une date qui n'a pas été respectée. Deuxième date également, ça n'a pas été respecté. Aujourd'hui que les choses ont évolué, je pense que ça va au mieux. Par rapport au truc, c'est la référence. C'est un hôpital de référence, on a dit. Ça ne peut pas accueillir n'importe qui. C'est tout comme quand les gens sont malades ici. Les grandes personnalités sont malades, elles vont en Europe pour se faire soigner, ou en Tunisie, ou au Maroc pour se faire soigner. C'est parce qu'ils cherchent un hôpital de référence. Comme Sylvestre l'a dit, moi, il ne peut pas aller là-bas prendre une chambre au niveau de l'hôpital.
Non, c'est pas une.
L'hôpital aussi, c'est hôtel. On te loge dans une chambre.
On t'hospitalise.
Mais
tu comptes, c'est dans une chambre.
C'est dans une chambre. Elles sont hospitalisées dehors, bien dans un salon là-bas. On t'hospitalise et à la fin, la facture est aussi salée que ça. Est-ce qu'on peut. Ça peut se faire avec une femme, nos vieux. Moi, ma vieille qui est au village, bien. Celle qui vend du gombo au marché, qui est malade, qui a les maux de ventre, qui va aller se présenter au niveau de l'hôpital Saint-Pélerin, que j'ai les maux de ventre, je suis venu pour me faire soigner. Tout ça là, c'est que c'est pour
parler. Mais c'est quand même l'occasion pour nous de rappeler aussi que il y a une échelle dans les formations sanitaires.
Oui.
Quand on a une migraine, quand on a une fièvre, on ne va pas dans un hôpital de référence. Et il y a les unités de soins périphériques, dispensaires. Sans de santé progressivement, et c'est pour les cas chroniques qu'on devrait aller dans un grand hôpital. Mais nous avons la chance d'avoir un confrère qui s'y connaît un peu mieux sur les questions de santé. Gadiel?
Oui, concernant le fait de l'accès à tout le monde à cet hôpital, le jour où il a été organisé, le 2 février, l'ouverture du capital, on y était et cette question a été posée et elle a été bien répondue. Les responsables ont dit que cet hôpital est ouvert à tous les Togolais. Quelle que soit votre bourse, vous aurez des soins. Oui. Mais, comme Abbas l'a dit, tel qu'on voit le chef de l'État de bout en bout dans ce projet, et avec l'implication de la CNSS, on comprend qu'il y a cette part publique dedans. Donc, les responsables de Talafia ont dit que c'est un hôpital pour tous les Togolais, pour toutes les bourses. Mais, c'est un hôpital de référence pour la prise en charge des pathologies élevées parce que c'est du plateau technique lourd qui sera installé, qui est installé. Donc, en tout cas, c'est ce qu'ils ont dit. Mm-hmm. Maintenant,
on verra bien.
C'est inauguré aujourd'hui,
on va voir ça. Oui, selon des informations concordantes, l'inauguration se fait actuellement par Fornia Simbe en personne.
Ok, le programme a été respecté.
ton enfant est sauvé.
Bon, mais ce que je voudrais dire, en réalité, nous savons tous que c'est la CNSS qui est derrière cet hôpital. Et qui parle de CNSS, parle du social. Et qui parle du social, parle des couches les plus défavorisées. Donc, pour moi, pour un hôpital dont l'initiateur est quelqu'un, une structure qui se bat pour le social, ça devrait être ouvert à tout le monde, forcément. Mais maintenant, il y a des exemples. Est-ce que vous savez que ce que nous appelons aujourd'hui la caisse, c'est des logements sociaux? Enfin, le projet au départ, c'était conçu pour être des logements sociaux. Oui. Mais aujourd'hui...
Là, tu parles de la résidence du Bénin.
La résidence du Bénin. Oui. Mais aujourd'hui, quand on y va, nous savons que ce n'est pas notre place là-bas. c'est de bonne guerre que les gens commencent par s'interroger si cet hôpital de référence-là, les portes seront ouvertes. Mais on interdit à personne de prendre une maison à la résidence du Bénin. Il faut avoir les moyens. Mm-hmm. Même si, au niveau de l'hôpital également, il y aura des tarifs. Vous verrez si vous allez à Dakpamé, mieux à vous de faire le choix en termes de coûts. Donc je crois que naturellement, comme tout hôpital, tout le monde ne va pas au CHU. Hein. CHU aussi, ça reste même un privilège pour certains. Mm-hmm. Ouais. Et, il y en a qui préfèrent aller dans les CMS ou alors la clinique à une pièce d'à côté, chacun en fonction de sa bourse. Mais de façon globale, je crois que c'est un hôpital qui est ouvert à tout le monde. On ne va pas peut-être mettre quelqu'un à la porte pour voir quel est ton niveau social avant qu'on t'ouvre. Mais si tu arrives maintenant et tu constates que peut-être il y a des choses qui te dépassent naturellement, on est habitué, on sait ce qu'il faut faire dans des circonstances pareilles.
Donc, Dr Lafia est inauguré aujourd'hui par Fornia Singbe en personne. Il était là pour la pose de la première pierre. Il est là pour l'inauguration. La suite, est-ce que c'est un hôpital public ou bien privé? Est-ce que tous les Togolais, hein, quelle que soit leur bourse, en cas de maladie chronique, est-ce qu'ils peuvent être admis, même s'ils n'ont pas toujours l'assurance maladie qui coûte des millions? L'avenir nous le dira.
Non, ça, pour la nature de cet hôpital, il faut oublier le fait que ce soit un hôpital public, comme le CHU, Sévanus Olympio ou bien Campus. Mm-hmm. Voilà.
Ah, il faut oublier ça.
Il faut oublier ça. Mm-hmm. Hein, donc, quand on voit l'évolution de l'installation de cet hôpital, avec l'ouverture du capital et tout, même quand vous posez la question au ministère de la Santé, dans beaucoup de choses, ils ne sont pas impliqués. Donc, je ne pense pas que ce soit un hôpital public, comme cela, puisqu'ils ont leur unité de gestion propre. Donc, il faut comprendre ça comme ça.
Mais il a été créé, à cet effet, la société de gestion hospitalière. Voilà. Donc, de toute façon, nous prenons acte de l'inauguration aujourd'hui. Les jours à venir, nous ferons voir.
Notre combat aujourd'hui, c'est de peser pour que...
Il y a un plaidoyer que les gens, même peut-être que c'est arrivé à votre niveau aussi, c'est concernant le centre hospitalier régional de Lomé commune, qui a entre-temps été réquisitionné pour les cas COVID. Alors, les populations alentours se demandent, comme Dieu merci, la COVID se fait un peu oublier, est-ce qu'on ne peut pas réaménager le CHU à Lomé commune pour l'ouvrir aux populations, notamment d'Aguenivé, des banlieues nord de Lomé.
Ce n'est toujours pas ouvert.
Non, c'est toujours pas. Donc c'est ce plaidoyer que nous disons haut ici. Nous allons terminer par un tour sur le Togo indépendant. Demain, notre pays indépendant aura 63 ans. Mais quelles sont les analyses des uns des autres? Dounia Le Monde écrit, 27 avril, indépendance du Togo, 63 ans après, un bilan mi-figue, mi-raisin. Ça, c'est signé Dounia Le Monde. La Lanterne écrit, lui, le 27 avril, pas d'adhésion populaire. Ce qui doit nous rassembler, nous divise plutôt. Et la Dépêche écrit aujourd'hui, quand les problèmes politiques au Togo fragilisent le vécu pacifique des populations. L'article fait cas des différences qui sont exacerbées par les questions politiques et bien d'autres facteurs. Ce que beaucoup prennent pour un véritable tabou, mais que pour la Dépêche, il urge d'aborder ces questions-là en vue d'une cohésion sociale. L'article parle de petits clivages interethniques et également des clichés, des stéréotypes entre les différents peuples qui sont dramatisés par les politiques et qui nous fragilisent entre nous, Togolais. Et la manchette, Sylvestre, ton journal est écrit 27 avril 1960-2023, de la félicité éteinte à 3 points de suspension. Une si longue nuit, et tu en appelles de nouveau à la sentinelle. Sylvestre.
Oui, vous savez, si on prend ce repère historique est très important dans la vie de la nation, le 27 avril 1960, et si on se réfère donc à ce discours historique et mémorable du père de la nation,
attention, officiellement,
c'est des clichés.
C'est des clichés qui
divisent. Je ne crois pas que ce soit un lapsus. Bon, père de l'indépendant, père de la nation, bon, c'est selon, enfin, ça va donc. Et donc, lorsque vous prenez ce discours, vous verrez qu'il y a quand même une ligne qui est tracée. Parce qu'à la fin de ce discours, quand il dit, par exemple, Togolaises et Togolais, allons bâtir la cité. Quand vous prenez, quand il dit Togo, te voilà enfin libre, et il dit ce Togo, tu as retrouvé ta dignité. Maintenant, il faut aller prouver et affirmer ta personnalité. Lorsque vous voyez les thèmes qui font ce discours, vous verrez que en réalité, c'est un rêve, un grand rêve, qui nourrit quand même ce père de l'indépendance pour le pays. Mais malheureusement, quand je parle donc de la félicité éteinte, ce 13 janvier 1963. A été donc ce jour où la félicité est éteinte, c'est-à-dire que l'aube qui devait passer, le témoin à l'aurore, pour avoir tout ce soleil-là qui puisse bénir le pays, vous verrez que c'est du statu quo jusqu'à aujourd'hui. Vous verrez donc dans notre réflexion, nous avons pris sur le plan politique. Aujourd'hui, l'impression, et ça c'est partagé par beaucoup de Togolais, c'est comme si nous avons deux types de Togolais. C'est-à-dire il y a la richissime minorité et la pauvrissime majorité. Nous n'avons même pas une classe médiane. Et même le chef de l'État lui-même s'est indigné un 26 avril 2012 lorsqu'il disait que c'est une minorité qui accapare donc les richesses du pays. Et cela, c'est lui qui continue en disant que cela crée un déséquilibre nuisible qui menace donc la démocratie et le progrès. Aujourd'hui, on continue donc à voir cela. C'est-à-dire qu'il y a trop de gentillesse dans la gestion du pays. Il n'y a pas de rigueur. Et si bien que même l'économie est presque sur les rotules. Vous avez vu, en 2010, nous avons atteint le point d'initiative PPTE, pays pauvre très endetté. Et donc, plus de 80% donc de la dette extérieure a été annulée. Mais, au 16e session des Nations Unies, le chef de l'État actuel demande encore à ce qu'on puisse aller à cette formule encore, à ce qu'on puisse annuler la dette ou l'alléger. Parce que si vous prenez aujourd'hui la dette du pays, en fin décembre 2022, nous sommes à plus de 333 milliards de francs CFA. C'est-à-dire, nous avons, ils sont en 5% donc du PIB. Voyez-vous? Or, il y a seulement 13 ans où la dette donc du pays a été effacée. Mais il y a des crimes économiques, il y a des scandales et tout ça. Mais ma foi, c'est que on n'arrive pas donc à mettre la main sur ceux qui siphonnent donc le pays, qui saignent l'économie nationale. Voyez-vous donc que 63 ans après, c'est comme si nous n'avons rien fait. Et que le pays est encore là, le statu quo, on parle encore. Voilà tous les éléments que nous venons de citer aujourd'hui. Oui. Peut-être qu'en amont, on devait le faire il y a 40 ans ou 50 ans. Mais c'est comme si c'est aujourd'hui que le pays décolle. 63 ans après, les mêmes, nous avons eu l'indépendance avec certains pays aujourd'hui, on ne peut pas les comparer, il n'y a pas photo. Les pays sont véritablement avancés, très loin de nous. Voyez-vous, donc il y a un certain nombre d'éléments sur lesquels nous devons véritablement réfléchir.
Le symbole même de la date du 27 avril, jour de la proclamation officielle de l'indépendance, célébrée jusqu'en 67, mais avec l'avènement de Gnassingbé Eyadéma au pouvoir, nous tous le savons parce que nous l'avons vécu, le 27 avril est passé carrément derrière le rideau au profit du 13 janvier. Bon, c'est après la conférence nationale souveraine que le 27 avril a connu un début de résurrection, mais c'est avec Faure Gnassingbé que ce jour-là retrouve progressivement son entièreté. Mais à côté, il y a toujours le côté de l'adhésion des masses populaires à la célébration de cette fête.
Oui, c'est vrai que, en tout cas, moi, je crois que même après 67, il y a eu la célébration du 27 avril jusqu'à une certaine époque où on n'a pas compris comment le 13 janvier est revenu. Parce qu'à l'époque, c'est vrai qu'on était très petit, mais on voyait quand même qu'il y avait 27 avril. Mm-hmm. Et je crois que peut-être il y avait un engouement parce que les populations de l'époque avaient un peu senti ce 27 avril-là. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est carrément de l'histoire pour nos enfants à qui on raconte beaucoup de choses par rapport à cette indépendance-là. Mais le désenchantement au lendemain des indépendances, ce n'est pas propre à un seul pays. Hein. Pratiquement toute l'Afrique francophone a vécu ce désenchantement-là. Il suffit juste de parcourir la littérature au-delà...
Et pas que francophone.
Ouais, il suffit juste de parcourir la littérature au-delà des années 60. Vous allez voir, c'est carrément le désenchantement. Ça m'a fait rire lorsque, dans le soleil des indépendances de l'Ivoirien, Amadou Kourouma, ouais, qui faisait dire à un de ses personnages, un vieillard qui se demande, mais l'indépendance là, ça va finir quand? C'est-à-dire qu'on leur a miroité, le blanc nous colonise, le blanc fait ci, le blanc fait ça, et quand on sera libre, voilà, désormais, voilà. Et puis tout de suite, ben voilà, on a l'indépendance, et il se rend compte que, finalement, c'est son frère d'hier qui reprend la place du blanc pour lui infliger les mêmes peines, même pire, puisque au moins le blanc, lui, il construisait quelque chose. Prenez les chemins de fer. Là où le blanc s'est arrêté, c'est là-bas, ça s'est arrêté jusqu'aujourd'hui.
Donc ça... Non, on ne se l'a pas arrêté là.
On l'a enlevé.
On a même détruit. Donc aujourd'hui, quand vous regardez, mais du point de vue politique, j'ai l'impression que c'est maintenant que les États africains commencent vraiment par peut-être sentir cette indépendance-là avec ce qui se passe. Quand vous prenez les exemples au niveau du Mali, où on ose quand même lever la terre pour dire non à certaines choses, j'ai l'impression que c'est maintenant quand même la nouvelle race des chefs d'État-là qui ose. Sinon, pendant longtemps, oui, l'indépendance, on l'avait. On en va aux Nations Unies et tout cela. Mais dans la pratique, vous sentez quand même que beaucoup de choses n'avaient pas changé, qu'on avait toujours cette relation paternaliste là avec le colonisateur. Donc le désenchantement, il a toujours été de mise. Je crois qu'il faut refaire les choses autrement pour amener les générations d'aujourd'hui à comprendre. Parce que quand on leur dit nous sommes indépendants, c'est un débat d'ailleurs. Parce que parfois quand j'entends on se bat sur les titres père de l'indépendance, père, il faut voir l'indépendance et la nation là d'abord avant de chercher qui en est le père.
Oui, avant ça.
Oui, voilà, parce que quand on dit souvent, comme c'est pour en même temps continuer sur ce que Fabrice a cité, oui, on parle de paix de l'indépendance, on parle de paix de la nation. On n'a pas encore une nation.
Pour le même pays, hein.
Pour le même pays, on n'a même pas encore deux nations. On dit que nous sommes indépendants. Et depuis qu'on dit qu'on est indépendant, ça fait 63 ans, mais toujours, ce n'est pas 63 ans même seulement au Togo. Il y a dans les pays africains, c'est depuis 1960 que les gens ont été indépendants, mais aujourd'hui, on continue pas à subir, ouais, la colonisation à haute dose même. Et je pense que c'est maintenant qu'on veut commencer un petit peu à s'affirmer. quand on prend les exemples de ce qui se passe au Burkina, au Mali, et même en Guinée, qui s'affirment, est-ce que les autres pays de l'Afrique sont prêts à suivre l'exemple de choses de ces trois pays-là qui sont en train de chercher à s'affirmer? On ne l'est pas, parce qu'il y a toujours cette tendance à toujours attendre quelque chose de notre colonisateur. Oui. On attend que c'est lui qui doit décider pour nous. Et on ne finit même pas de le dire. Au plan économique, on n'est même pas indépendant. Sur le plan politique, on n'est même pas indépendant. À tous les niveaux, on n'est pas indépendant. Aujourd'hui, que certains pays cherchent à s'affirmer, d'autres cherchent à toujours être des conservateurs, à s'accrocher aux colonisateurs. Si on peut au moins s'en sortir, c'est-à-dire commencer par réfléchir et voir comment nous aussi, nous allons sur nos propres options, sur nos propres opinions, commencer par s'affirmer, oui. Dire que sur le plan agricole, on ne peut pas dépendre de quelqu'un. Merci. Sur le plan social, sur le plan culturel, on ne peut plus dépendre de quelqu'un. Je suis sûr qu'on s'en sortira.
Il est midi, mais ce que vous avez dit là, ça me fait sourire. Hein, on se bat pour le père de la nation, le père de l'indépendance. Mais c'est où l'indépendance et c'est où la nation? Et puis, l'indépendance, 63 ans, même cette émission, nous l'animons dans la langue de celui qui nous avait colonisé.
Du colon.
On aurait pu faire cette émission en Évé, en Kabyé, en Aouda, mais nous parlons dans la langue... du colonisateur.
On parle de la langue du travail.
Et puis la conscience africaine, c'est vrai que on a eu les Sylvanus Olympio, les Sékou Touré, les Kwame Nkrumah, les Patrice Lumumba, mais c'est comme on a connu une éclipse pendant et c'est maintenant c'est des militaires qui viennent chambouler le champ démocratique. C'est eux qui nous réveillent à un discours national africain. On a eu l'éphéméride, Thomas Sankara. Maintenant, on a les cas du Mali et du Burkina. Et Dieu seul sait tout ce que cela va donner. En tout état de cause, bonne fête de l'indépendance à nous et à vous. Il est midi, nous faisons une pause et après, nous renouons avec vous. 22 21 33 74 91 36 63 75 pour parler de santé mentale, notamment la dégénérescence de nos neurones qui peut nous causer beaucoup de maladies vraiment chroniques, ou encore comment faire du fitness, être en bonne forme, et puis l'actualité sociopolitique. Les confrères sont autour de la table pour recueillir vos commentaires et vos questions. Premier auditeur, bonjour.
Oui, bonjour.
Oui.
Oui, c'est Pelé.
Pelé, nous vous écoutons.
Ok, je salue le plateau.
Nous vous saluons aussi.
Bon, je pense que bienvenue pour l'hôpital Saint-Pérégrin devenu de Talafia.
Oui.
Nous allons applaudir monsieur le ministre Christian Trimois, qui nous a déjà promis chaque fois à la fin du mois de juillet, à la fin du mois de juillet, jusqu'à... Enfin, c'est arrivé.
Et on n'est même pas encore arrivé à juillet. Nous sommes seulement en avril.
Voilà. Maintenant, ma première question, est-ce que demain, on peut aller à cet hôpital pour être consulté. C'est-à-dire qu'on a une durée là, c'est déjà prêt. Mais moi, je sais que c'est quelque chose de vide qu'on a une durée là-bas. C'est-à-dire demain, ou bien trois mois, deux, un an encore, vous n'aurez pas les gens là-bas pour aller et qui vont aller se soigner. Ça, c'est la première question. Est-ce que.
Non, à ce niveau-là, Pelé, vous permettez, il y a déjà quelques semaines, l'hôpital avait organisé une visite pour présenter certains services qui sont déjà opérationnels.
Est-ce que demain, on peut aller se soigner? C'est ça?
Bon, Pelé, demain, oui. Si vous êtes malade, allez à Dr. Lafia et vous nous direz si on vous a reçu ou non.
Ok, ça c'est la première préoccupation. Mm-hmm. Deuxième préoccupation, je sais que cet hôpital-là ne peut pas accueillir au moins 2% des Togolais. Vous allez voir que ce sont des étrangers que vous allez voir là-bas. Parce que ça dépasse déjà les Togolais. Est-ce que le président ne peut pas aller vers le social, construire des hôpitaux qui peut à peu près peut avoir un bon de 1 000 francs, de 1 500 francs? Vous ne pouvez pas aller là-bas, vous allez voir que c'est à 10 000 francs. Quand l'hôpital est à ce niveau, ce qu'on a construit là avec des milliards, je ne sais pas. Là, La dernière préoccupation pour moi, il faut que le président Fong Yassine aide le peuple togolais à vivre mieux. Il faut qu'il aide le peuple togolais à vivre mieux. Il ne faut pas qu'il balade dans les champs partout qu'il a besoin de travailler pour tout le peuple togolais. C'est dommage.
Merci Pelé. Là, vous avez raison. Fong Yassine qui a créé un ministère chargé de l'accès universel au sein de santé devrait doter le pays des structures afin que tous les Togolais malades puissent se faire soigner dignement. Le suivant, bonjour.
Allô, bonjour, Frère.
Oui.
Monsieur Gado.
Monsieur Gado, nous vous écoutons.
Bon, pourquoi on a changé le nom de l'hôpital? Avant, c'était simple, les grands de quelque chose comme ça, non? Le nom d'un Français, je ne sais pas.
Monsieur Gado, on a dépassé l'étape là depuis, Monsieur Gado.
Oui, mais comme ils ont mis à la fière, là, je ne sais pas que ça
va être moins cher. C'est l'hôpital La Fière.
Je ne sais pas que ça va être moins cher comme les CMS. Merci.
Monsieur Gado, ce que la caisse a dit, c'est une combinaison des langues Moba et Naouda qui donne l'hôpital La Fière.
Donc, c'est moins cher. Laissez privé, là-bas, je ne comprends pas là. Merci, bonjour.
Merci beaucoup, Monsieur Gado. Qui passe le témoin au suivant? Bonjour.
Monsieur Sass, bonjour.
Oui.
Et Monsieur Sass, vous avez l'habitude de dire ce qui est dit, et ce qui est dit doit être fait.
En principe.
Normalement. Même si ça ne doit pas être fait, il faut informer. Il ne faut pas attendre un peuple comme il est dupe. Un peuple n'est pas dupe. Nos autorités doivent communiquer. Ils n'ont pas cette culture. Ceux qui nous gouvernent n'ont pas cette culture. Communiquer.
Vous pensez à quoi concrètement en disant cela?
Je pense à la présence du chef de l'État devant les députés.
Ce matin, comme il a été annoncé.
Normalement, comme prévu, comme annoncé dans le programme.
Okay.
Et pour la santé mentale, ça, je veux dire quelque chose aux parents. Quand vous avez un membre de la famille qui souffre de ce mal, c'est pas peine perdue. Il y a des familles qui laissent leurs proches. Il y a des gens qui ont besoin un peu seulement de soins et puis ils se rétablissent alors que les parents laissent ces gens. C'est pas des. Il paraît que c'est le fou et le folle qui s'accouplent et qui donnent un enfant. Je ne pense pas qu'un homme normal, comme vous venez de le
Sylvain,
dire.
Il y a des hommes pleinement normaux qui vont s'accoupler avec ces femmes-là et qui produisent ce dont nous parlons aujourd'hui.
Ça, c'est sur notre planète, ça. C'est pas sur
non, c'est au Togo, terre. Sylvain. C'est bien dans notre pays, le Togo.
Et franchement,
oui.
Que Dieu nous pardonne.
Amen. Merci beaucoup. L'auditeur suivant. Allô?
Bonjour, Saf.
Bonjour.
C'est ça depuis Copenhague.
Ah, notre depuis ami le depuis le Danemark. Nous vous écoutons.
Bonne fête à la nation togolaise.
Merci.
Vous avez parlé de l'indépendance du Togo. Et à chaque fois, je me pose cette question. J'ai dans ma tête une image. Comme quoi, c'est comme on a construit une maison et puis on met les enfants dedans. Écoutez, c'est votre héritage. Et c'est comme les Blancs sont venus, on a dessiné les frontières et on a donné comme nom le Togo pour nous. Parce que j'ai l'impression comme on n'a pas fait assez de lutte pour mériter cette nation. Même le Togo, ça ne venait pas de nous. C'est comme les Blancs qui nous ont donné ce nom. En ce moment, au même moment, je me dis souvent, je suis plus fier d'être Cadien que d'être Togolais. Il est bien vrai que j'ai une nationalité togolaise, la nationalité togolaise écrite en français, que même l'émission que nous faisons, nous divisons en français. Je me dis, c'est quel héritage nous avons? Merci.
Je vous en prie, l'ami Richard, bonne fête à vous. Et à toute la communauté togolaise au Danemark et partout en Europe. Le suivant, bonjour.
Ouais, ça c'est bonjour.
Oui.
Comment vous allez?
Nous rendons grâce à
Dieu. Dieu bénit tout le plateau, c'est l'évangéliste Senghor.
Amen.
Bon, je voudrais parler de l'indépendance, comme vient de dire notre frère du Danemark. L'indépendance, ce sont trois années sans vision. au même moment, nous fêtons la fête d'indépendance au Togo. Il y a les pays à qui on augmente leur échangeur, trois échangeurs. Mais ça me fait tellement mal. Sas, je crois que là, vous tous, vous êtes, vous voyagez, non? Vous voyez, quand tu traverses les frontières, c'est ce, le seul Togolais qui n'a jamais traversé les frontières du Togo, qui va croire son pays à 63 ans. Et dans leur musée. Non seulement ça, moi je suis à Guido-Gomé, ou dans la nuit, ça, ce soir il faut sortir, ou vous arrivez à la nouvelle route de Bomaf, où les lampadaires sont allumés quelque part, d'autres s'est coupé, mais du désordre. Vous voyez, ça dit que c'est une vision. Moi, c'est une ronde. Bon, j'en viens pour l'hôpital dont vous êtes en train de parler. Mais, s'il vous plaît, notre cher président, ce n'est pas toute chose qu'il faut inaugurer, hein, non. L'hôpital, là, moi, je vois que ça, c'est un privé, hein. Parce qu'on inaugure, ou comment je vais parler le français, on doit inaugurer une institution qui doit aider toute la nation. Je voudrais encore le réitérer. Le président, dans tout le monde entier, même aux États-Unis, on fait inaugurer une institution qui doit aider tout le monde, pas une seule partie. Donc, il dit que prions. Demain, je lance un appel aux organisateurs d'inviter un prélat ou un pasteur pour prier, demander, plaider à Dieu pour que ce pays puisse sortir dans cette
maison. On n'a pas besoin d'inviter les prêtres et les prélats ou bien les pasteurs. Vous priez dans vos églises, dans vos temples pour tout le pays.
La prière commune aussi, la prière nationale aussi peut donner beaucoup de choses. Tu crois que le prélat ne va pas aller seulement déjà prier. Il doit quand même donner des leçons.
Oui.
Il doit quand même les dirigeants.
Oui, l'ami
c'est Dieu qui les a institués et Dieu nous dit de les respecter, mais ils n'ont pas de responsabilité.
Oui, s'il vous plaît.
Je vous remercie.
Fabrice veut vous saluer. Fabrice?
Il est déjà
non, 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 mais il va écouter quand même Fabrice.
Non, Julien, on a beaucoup prié en Afrique, mais il faut travailler. Il est temps de travailler maintenant.
Merci beaucoup. Allô. Le suivant, bonjour.
Oui, bonjour.
Oui.
C'est abonné. Hein.
Oui, nous écoutons.
L'évangéliste a un peu marché sur ma langue. Sur la question de l'inauguration de Dr. Lafia. J'aimerais aussi que vous invitiez le ministre Trimois qui viennent nous faire l'état des lieux de la Genèse jusqu'à l'accomplissement de Dr. Lafia.
Ce n'est pas le projet de Trimois, hein?
C'est lui qui a fait la promesse, ça fait déjà 3 ans.
Okay.
Donc, il peut mieux en parler. Maintenant, sur l'utilité du déplacement du chef de l'État vers l'ouverture de Dr. Lafia, au mépris de sa présence devant l'Assemblée. Je ne comprends pas. On ouvre le capital ou le privé pour terminer l'hôpital en question. Cela signifie que nous-mêmes, en tant qu'État, nous sommes incapables de construire un centre de santé public de ce renom-là. Maintenant, si on ouvre le capital au privé, quelle est l'utilité du déplacement du chef de l'État vers une institution parapublique ou bien fixe? Aller devant les députés pour faire l'état des lieux et répondre à des questions idoines. Moi, je ne le comprends pas. Hier, j'étais passé, on a mis des panneaux nous disant que plus d'évacuation sanitaire. Est-ce que nous sommes sûrs de cette affiche-là? Il y a une autre affiche qui remercie le chef de l'État. Est-ce que c'est l'argent de sa poche? N'est-ce pas une propagande politique pour nuire encore à ce centre qui vient de naître? Je me pose assez de questions. Donc, si M. Trimois est à l'écoute, je l'invite vivement à venir ici. Sur la question de l'indépendance, M. Sass, on nous a raconté, nos aïeux nous ont dit, ils avaient des dettes. Ils ont tout fait pour payer les dettes. Et l'indépendance devait être proclamée avant même 1960. Mais ils ont refusé de travailler, payer les dettes pour pouvoir s'assumer.
Les dettes à la République de France.
Voilà. Ils ont même pris dans notre hymne Togo l'or de l'humanité. Voilà une vision. Aujourd'hui, nous avons des dettes que les gens volent. On brade toutes les richesses de la nation. Nous n'avons pas la même mise sur nos richesses naturelles. Et on nous parle d'indépendance. Il y a question. il y a matière à débattre. Merci. Et je suis resté très triste.
Merci, Komi. Ne soyez pas triste, c'est quand même jour de fête. Dernier auditeur que nous allons prendre aujourd'hui, bonjour. Il est parti.
Allô.
Oui, bonjour.
Bonjour, c'est Ali.
Ali.
Oui, juste pour vous dire que le Togo actuel n'est pas le Togo qui a eu l'indépendance. La vision qui était définie a été détruite dès la mort du premier président démocratiquement élu. Mais nous qui sommes actuellement sur ce territoire, nous avons le devoir de faire rayonner ce pays, mais les dirigeants actuels n'ont pas cette vision. Je vais l'expliquer ceci. Imaginez que les dirigeants veulent se voir aimés par l'extérieur et négligent les populations, surtout côté santé, côté, je dirais, même accompagnement social. Imaginez le programme qu'on a annoncé sur notre télévision, mais TVT. Voilà qu'on a sorti ça, et on a ôté hier nuit la partie de la, du discours qui doit faire partie des programmes du président. Et jusqu'à présent, il n'y a pas eu un mot de justification. Ceci d'abord pour le respect pour la population et ensuite pour reconnaître que c'est un représentant de la population. C'est un mandataire. Retenez ça, un président, un ministre, c'est un mandataire. C'est la population qui sont des mandants. Mais aujourd'hui, on voit qu'eux, ils sont là pour nous dire qu'ils décident de tout. Nous, on n'a rien dit. Exemple, le procureur nous a dit la dernière fois qu'on n'est pas togolais parce que les associations qui se sont allées pour intenter un procès contre X par rapport aux dons et aux prêts qu'on a fait avec notre nom, le procureur dit qu'ils ne sont pas concernés directement.
Là, vous parlez du rapport de la Cour des comptes sur la COVID-19.
Oui.
Oui.
Là, le procureur a fait une haute erreur qui doit être sautée de là. Il nous dit directement qu'on n'est pas togolais. Je comprends ça comme ça.
Merci.
Alors, le président a gardé ça comme si rien n'était. C'est pourquoi nous le considérons que c'est lui qui développe l'impunité et les couvre pour pouvoir nous nuire dans ce pays.
Merci Ali. Souffrez quand même que nous vous souhaitions une bonne fête de l'indépendance du Togo. Merci. Eh bien, chers confrères, vous avez écouté, les tons sont enflammés. Je dénote quand même que c'est parce que tous ceux qui ont appelé, c'est parce qu'ils aiment le Togo, qu'ils parlent avec autant de chaleur. À moins que je me trompe. Fabrice ?
Oui, c'est bien ça. Je crois qu'ils ont quand même envie que le pays évolue et c'est normal. Quand le pays évolue, tout le monde en bénéficie. Mais il faut aussi éviter parfois cette attitude un peu défaitiste-là, surtout sur le cas de l'hôpital, où on a l'impression que sans y mettre pied, les gens s'auto-excluent en même temps. Non, il faut...
La meilleure façon de s'auto-exclure, c'est de ne pas tomber malade,
justement. Ah. Et donc, je crois qu'il faut quand même... il faut y aller, voir ce que ça donne. Et puis, il ne faudrait pas qu'on oublie aussi une chose. Aujourd'hui, il y a aussi des gens qui ont les moyens, mais qui n'ont pas les soins qu'ils souhaitent. Dans les structures que nous avons, il y a des gens, vous pouvez aller aujourd'hui, il y a des situations, vous allez au CHU, dans leur petite chirurgie là, vous avez l'argent pour vous faire prendre en charge, mais on vous dit qu'il n'y a pas de place. Donc, ça voudrait dire que même parfois, le pauvre a les moyens de se soigner, de s'offrir des soins, mais on ne lui propose rien. Et donc, si pour certaines maladies dans cet hôpital de référence, ça peut empêcher aux gens de peut-être... traverser les frontières pour aller se soigner. Je crois que ça peut être aussi une bonne chose. Mais il ne faudrait pas rester à la maison et dire que ce n'est pas pour nous. Pour moi, il faut faire l'expérience d'y aller. Et bon, si vous vous rendez compte qu'effectivement, ce n'est pas pour vous, là. Mais si on s'auto-exclut sans faire l'expérience d'y aller, je crois que ce n'est pas une bonne chose.
Merci. C'est vrai que des fois, on a l'impression que nous, Togolais, aimons beaucoup jouer à l'autoflagellation, alors que l'espoir est quand même permis.
Absolument, parce que aujourd'hui, Le Togo est dans la dynamique de l'accès universel aux soins. Il faut des structures pareilles pour qu'on ait accès aux soins de qualité. C'est surtout ça aussi. Donc, comme Fabien vient de le dire, il faut des centres de référence qui vont nous donner des soins de qualité. À certains moments, de certaines maladies dans la vie des personnes, il faut ce genre de centre de référence pour accueillir des gens, pour procurer des soins. Donc, je pense que nous, les Togolais, on doit attendre, voir ce que Dr. Lafia va nous donner. C'est un hôpital de référence qui est construit pour les Togolais et prions que cela serve réellement à la promotion de la santé, aux soins de qualité dans le pays.
Sylvestre Kokou.
Oui, bon, en fait, moi, je voulais revenir sur le sur la rencontre donc de l'Assemblée que le chef de l'État a priorisé, a inauguré ce centre-là. Et à un moment donné, il faut dans les priorités, il faut avoir une priorité. Hein, parler donc de l'état de la nation, je crois que c'est plus important que d'aller inaugurer. Hein. Et puis aujourd'hui, on constate également cette propension, sinon cette obsession du chef de l'État à aller inaugurer tout. Je l'ai vu il y a quelques jours, il inaugurait même un lampadaire. Vous voyez des choses. Il y a un mec qui est là qui peut.
Dans la vina, il avait lancé
Il a lancé. Oui, je l'ai vu avec.
Il a...
Non, il y a un mec qui peut faire ça. Il y a, à défaut du maire, il y a le préfet. À défaut du préfet, il y a le ministre. Même lui-même, je l'ai vu, il tenait une pelle avec lampadaire et tout ça. Donc, il lance, il inaugure tout. Hein, or, le ministre de la Communication nous a dit que la parole du chef de l'État doit être rare. Donc, aussi, pour ces petits trucs-là, il faudrait qu'on envoie les ministres, les maires, tout ça, et aussi, pour le faire. Il inaugure tout aussi bien que, comme il a pris il a boycotté, donc, presque la rencontre de ce matin pour aller encore inaugurer quelque chose. Vous voyez, c'est pas bien. Maintenant, je voulais revenir sur Pelé qui disait que l'hôpital, c'est des étrangers qui vont venir et tout. Mais si les étrangers viennent, ce serait également un plus pour le pays. Parce que nous aussi, nous allons dans d'autres pays. Vous voyez, nous allons dans d'autres pays pour nous faire soigner. Bon, si je dis nous, je parle donc des haut-perchés. Hein, quand ils ont des migraines, c'est Paris. Même nous avons même deux anciens ministres qui sont décédés à Paris, à Gbeboy et Demkojo. Vous voyez? Donc, si les gens peuvent venir ici aussi, bon, ça fera également des rentrées, des recettes pour le pays. Sauf qu'on sait ceux qui gèrent également les recettes.
C'est pas pour mourir, c'est pour être guéri.
Pour être guéri et repartir. Au moins, bon, on fera quand même quelques sous ici.
Oui, mais c'est pour dire que par rapport à l'indépendance, je pense que cette date a été galvaudée depuis quelques années et que lorsque le chef de l'État fort est arrivé, il a commencé par la rénover. Aujourd'hui, je salue la direction de l'enseignement régional de l'enseignement du Grand Lomé qui a initié dans un communiqué, il a appelé les établissements publics à parler dans un débat aux élèves sur l'indépendance, à leur faire l'historique de l'indépendance et a appelé au patriotisme qu'on réquisitionne deux enseignants dans chaque établissement pour parler aux enfants de l'indépendance du Togo, leur rappeler comment ça s'est passé, et maintenant faire observer une minute de silence sur les martyrs du Togo. Pour les appeler au patriotisme. Je pense que c'est une bonne initiative.
Qu'on peut pérenniser. Merci, Shaula. Il faut être en bonne forme. Pour célébrer l'indépendance.
Ah oui, effectivement.
Et éviter d'être transporté sur une branche, par un brancard ad hoc à la Via.
Ah oui, justement. Oui. Moi, tout ce que je peux dire, c'est que oui, les hôpitaux, on en a besoin, mais il faut que ça soit aussi à la portée de la population, afin que la personne qui ne peut pas voyager puisse au moins avoir confiance au docteur de son pays pour lui sauver la vie.
C'est ça.
Et moi, je veux dire, côté de l'obésité, il est temps qu'on se réveille avant qu'il ne soit trop tard.
Et vous êtes là et avec votre programme. D'abord, oui. Votre travail, oui. C'est entretenir la santé par le sport.
Oui.
Et avec le projet Fit Diva Afrique, vous prenez en charge les femmes obèses. Et en 6 mois,
on leur remet la santé qu'elles doivent garder pour toute leur vie. et aussi cette confiance en elle qu'elle doit retrouver pour réintégrer la, la société.
Et le rendez-vous pour voir ce que vous faites,
c'est le 5 mai à 19h à Agora Senghor.
On vient la main dans les poches comme ça.
Il y a un ticket pour nous soutenir, puisque c'est un projet. On n'est pas encore d'aide financière. Donc
On met quoi dans la poche pour
3 000, 5 000, 10 000 seulement.
Seulement pour nous soutenir, voilà, à remettre les femmes obèses en pleine forme.
Voilà,
et quand elles vont revenir en pleine forme, c'est les Sylvestres, les Gardiens, les Fabrice, les Abbas, les Michel Tominga, les Géraud qui iront les regarder.
Tu as oublié quelqu'un. Tu as oublié quelqu'un.
Eh bien, chers amis, ici au studio, la tech auditeur, quels que soient les sentiments des uns des autres, c'est quand même un pays, nous sommes dans un pays indépendant. Même si nous avons des choses à reprocher aux uns ou aux autres, que chacun se dise, je suis fier d'être Togolais, je suis prêt à faire de ce Togo-là l'or de l'humanité. Bonne fête de l'indépendance à nous tous. Et nous nous retrouvons le vendredi prochain à 11h, si Dieu le veut et Dieu le voudra bien.